Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Un dicton dit, Paris est bon pour voir, Lyon pour avoir, Bordeaux pour dépenser et Toulouse pour apprendre. Évidemment, ce dicton évoque la richesse de l'enseignement prodigué à Toulouse, qui est la deuxième ville universitaire de France. Mais le lecteur apprendra aussi beaucoup dans cet ouvrage justement consacré à Toulouse. Promeneur curieux, il découvrira des lieux à l'histoire parfois méconnue ou oubliée, mais aussi des lieux les plus mystérieux ou les plus insolites. Riche d'écrits, d'informations, de citations, de photos et même de dessins qui le rendent d'autant plus attractif, voici un cadeau à offrir ou à garder qui s'intitule « Toulouse, petits secrets et grandes histoires » édité par les éditions Sud-Ouest et j'ai le plaisir d'accueillir son auteur. Francis Pormont, bonjour.
Bonjour.
Voilà, c'est vous qui nous apportez cet ouvrage. Et je me dis, mais quel travail pour arriver à rassembler toutes ces informations, non seulement passées, parce que des livres d'histoire, il y en a, il faut les lire, hein, mais actuelles aussi. C'est un travail de roman.
C'est un gros travail, en effet. J'avais mal mesuré hein, quand j'ai accepté.
On mesure toujours mal, parfois, voilà. Certaines choses.
Oui, oui. Et j'ai eu un temps de découragement au milieu du parcours qui a duré environ 18 mois, un petit peu plus même, puisque j'avais un projet, j'avais commencé sur un autre projet avec les dessinatrices. Mmh. Et puis, il s'est élargi, donc, avec la proposition de Sud-Ouest. Et je dois dire que à la fin, j'étais vraiment content d'arriver au bout parce que effectivement,
vous avez accompli une tâche.
Voilà, non seulement des recherches, mais de la rédaction, du travail de résumé aussi, qu'on ne pouvait pas faire 4 volumes ou 5.
Évidemment. C'est un guide qu'on peut transporter quand même.
Ah bah oui, c'est fait pour.
Oui.
Bon, il est un peu...
Un peu lourd.
Lourd parce que c'est du beau papier. Mais bien sûr, il est fait pour être dans un sac.
Oui. Alors... Je dirais, moi, que pour les Toulousains, ça fait appel vraiment à l'émotion. Moi, pour ma part, il y a beaucoup de choses que vous rappelez qui me rappellent ma jeunesse. On en parlera d'ailleurs parce que, quand on est étudiant, il y a les cafés qu'on a fréquentés, les caves dans lesquelles on a dansé, etc. Nostalgie, parfois, c'est vrai. Pour les touristes, un intérêt certainement décuplé pour la ville. Parce que c'est pas le guide plat hein, que l'on voit fréquemment, hein.
C'est ça. Alors moi, j'ai d'ailleurs accepté à cette condition de faire un guide, on va dire, un peu personnel.
Oui, vous vous projetez, oui, c'est vrai.
Voilà,
oui.
Un peu intime même, parfois. Mais en même temps, ce que, bon, je m'en doutais, une ville est la propriété de tout le monde, en tout cas de ses habitants. Oui. Donc on ne peut pas raconter n'importe quoi, toutefois.
Oui.
Mais j'espère avoir réussi à conjuguer à la fois les motifs, l'émotion, les souvenirs,
la véracité,
la nostalgie, avec une véracité, y compris une véracité historique, même quand l'histoire était un peu noire, elle est comme ça.
Oui, tout à fait. Alors, rendons hommage également au photographe. Il s'agit de Dominique Vier. Il y a des photos anciennes également, ça, bon, anonymes, évidemment. Aux dessinatrices. Alors, j'ai remarqué que c'était 4 dessinatrices.
C'est ça. C'était un groupe de dessinatrices amatrices, on va dire. Moi, j'en connaissais une et je lui ai proposé de collaborer à ce livre, au premier projet, d'ailleurs, qui ne concernait pas autant d'objets. Nous avions environ une 20aine de lieux. Et là, il y a 33 petits quartiers, ce qui fait dans plus d'une centaine, dans les 110 à 120, je n'ai pas compté exactement, sujet du guide.
Oui, oui.
Et comme elle avait ses amis dans cet atelier, ma foi, elles s'y sont mises à 4.
Oui, oui, oui.
Nous avons commencé pendant le confinement, ce n'était pas très commode, en correspondant, en visitant un peu numériquement. Et puis ensuite, nous nous sommes baladés ensemble dans la ville.
Oui, un travail collectif qui est très... Et ça, ça illustre, ça allège même l'écriture, je dirais, s'il n'y avait que de l'écriture. C'est vrai que, finalement, c'est d'autant plus agréable à lire.
Certainement, c'était la règle du jeu qui était fixée par l'éditrice.
Alors,
pas par moi.
Pierre Camara, qui était écrivain et poète toulousain, disait « C'est une grande ville, parlant de Toulouse bien sûr, une grande ville méridionale au carrefour de multiples influences méditerranéennes et atlantiques. Multiples influences, effectivement, liées à sa situation. » Et vous le montrez bien d'ailleurs, méditerranéenne, atlantique, Pyrénées, Espagne. D'ailleurs, souvent, les visiteurs se demandent si l'influence espagnole est-elle aussi forte qu'on le dit, s'il n'y a pas une influence italienne.
Oui, oui, c'était le cas de Michelet, je crois. Oui. Michelet qui dit quand on arrive, à la lettre, hein, mais dans l'esprit, quand on arrive à Toulouse, on se demande si on est en Espagne ou en Italie. Mmh. Et oui, en fait, Pierre Gamarra, justement, répond, c'est encore l'idée, en fait, on est en Occitanie.
Oui, également. C'est une ville indépendante, loin de la capitale. Ça n'a pas enrichi, mais ça lui a gardé son authenticité, d'une certaine manière, pendant longtemps, du moins.
Certainement. On dit parfois que c'est un gros village qui a de la peine à devenir une grande capitale. Grande capitale, maintenant, tout de même, oui. ça l'est, je dirais, spirituellement et culturellement.
Oui.
C'est un peu trop oublié. On sait pourquoi ça a été oublié, c'est-à-dire que la langue dans laquelle se développait la grande culture des troubadours, c'était l'occitan, et ayant été interdit, y compris à l'école publique, ayant été interdit très longtemps, ça a commencé sous l'Ancien Régime, je crois, et la République n'a fait qu'accentuer ces interdits-là, comment laisser s'épanouir une culture dont la langue est interdite? Malheureusement, c'était un grand problème que j'ai eu envie d'essayer de creuser pour restituer quelques valeurs.
Et puis, c'est vrai aussi qu'on voit une évolution étonnante, parce qu'on passe du pastel à l'aéronautique, en n'oubliant pas d'ailleurs d'autres lieux mythiques, hein, mais que ce soit dans l'économie comme dans la population, il y a eu une évolution, certainement, et fatale, je dirais, enfin fatale, obligatoire.
Oui, bien sûr. Si vous voulez, moi, j'ai découvert, en voulant faire découvrir la ville, je l'ai découverte moi-même. Parce qu'on croit
connaître, oui. Mais en vous lisant, moi aussi, j'ai découvert beaucoup de choses.
Voilà, naturellement, on ne connaît pas tout. Alors, j'ai, une attraction particulière pour la façade des Beaux-Arts, sachant que c'est Jaurès qui l'a inaugurée, qu'il y a des muses un petit peu dénudées qui représentent, c'est normal, en
matière artistique. Qui plaisait bien aux étudiants.
Voilà. qui représente donc les arts et lettres, etc. Mais j'ai appris, moi, que cette façade a été juxtaposée sur une ancienne usine. On voit dépasser des deux côtés, d'ailleurs, cette façade l'ancienne façade en briques.
Oui.
Et là, c'était le siège de la manufacture des tabacs où travaillaient 2000 ouvrières.
Qui est passé de l'autre côté. Parce qu'un manufacture
de tableaux qui ensuite
a été transporté. Ah oui, d'accord, oui. Ce que vous dites, oui.
Et ça a une histoire, cette manufacture, une histoire, parce que les ouvrières gagnaient exactement la moitié du salaire des hommes. Là, il y avait très peu d'hommes, hein, mais enfin, si vous voulez...
Là, vous appuyez sur la corde sensible en ce moment, oui.
Oui, en plus. Et alors, évidemment, elles se rebellaient souvent. Il y a eu des grandes grèves. Qui étonnait d'ailleurs les journalistes, hein, que des femmes soient
capables.
Voilà, des choses comme ça, j'en ai appris bien d'autres.
Hein. Oui. Alors, vous parlez justement de cette évolution, évolution sociale, et par rapport au salaire des femmes, heureusement, c'est pas fini. Une évolution sociale, en ce sens que c'était quand même une ville de magistrats, d'ailleurs, les beaux hôtels qu'il y a dans la ville le prouvent, de commerçants, c'était un carrefour de voies marchandes, vous le dites. Et c'est devenu aussi maintenant une ville de chercheurs, d'ingénieurs, d'universitaires. C'est la deuxième ville universitaire de France. On le voit déjà au nombre de jeunes qui parcourent la ville.
Oui, alors on voit surtout ces jeunes, en goguette, en dehors du travail. On les voit sur les quais de la Garonne,
dès qu'il fait beau.
Le bord du fleuve, dès qu'il fait beau, il y en a beaucoup qui ont l'air de prendre du beau temps. C'est très beau d'ailleurs, avec les couleurs des quais. Les quais de Paris peuvent aller se rhabiller à côté parce qu'ils sont tout gris.
Allez, oui, hein, disons-le.
Voilà, ils sont tout gris. Les nôtres sont de toutes les couleurs.
Et puis les terrasses des cafés, vraiment aussi, c'est vrai.
De très nombreux cafés un petit peu partout, notamment Place Saint-Pierre, Place de la Trinité. Au Capitole, c'est peut-être un peu moins étudiant, le Capitole, un peu plus huppé. Mais enfin, des cafés, il y en a un petit peu partout. Avec des étudiants.
Alors, parfois, vous donnez vos impressions personnelles, et de vos déceptions. Par exemple, et je vous rejoins, le square de Gaulle est un peu trop minéral.
Ah oui, je pense, quand on a connu l'ancien, était beaucoup plus fait de
pas
nature.
Pas plus grand, mais avec de la végétation.
Voilà, il est un peu trop minéral à mon goût. Et puis, il a quand même le mérite de révéler les contradictions de la ville. Puisqu'il y a une stèle qui est un hommage à De Gaulle, très bien, résistant, mais il permet de se souvenir que De Gaulle, lorsqu'il est venu à la Libération, il a offensé les résistants, notamment la personne de Ravanel, un des chefs de la résistance, le colonel Ravanel. Il a complètement offensé. Il y tenait d'ailleurs pour s'affirmer, lui. Mais bon, on peut avoir cet épisode à l'esprit avec un certain regret. Quant à Nougaro, son bronze, qui est très intéressant, je l'ai découvert aussi, il a été réalisé grâce à la participation, y compris manuelle, de fans, on va dire. Et du coup, en cherchant, j'ai appris que sa fameuse chanson « Au Toulouse », il l'avait d'abord pas écrite comme ça du tout.
Oui, plutôt tristounette. Hein.
C'est ça, il était loin, émigré, c'est la nostalgie de l'émigré. Il avait écrit une chanson très triste. Et c'est son épouse, enfin qui était la deuxième puisqu'il en a eu quatre, sa deuxième épouse qui lui a dit « tu peux pas faire ça, il faut que tu recommences ». Et donc il a fait une chanson beaucoup plus...
On l'écoutera à la fin de cette émission. Bien. Et alors... vous avez des coups de cœur, évidemment, pour l'Espagne. Et on se rend compte, on en reparlera d'ailleurs, combien il y a l'influence espagnole a joué, du moins dans la société. Sur Jaurès, et alors l'aventure de sa statue. Vous permettez, je vais le lire, c'est court. L'histoire étonnante et exemplaire de ce monument a été confiée par Rémy Pêche. Alors Rémy Pêche, on connaît, c'est une figure de l'université toulousaine, président honoraire de l'université de Jean Jaurès et président des Amis de Jaurès. Il est auteur de plusieurs livres. Je l'ai reçu à cette table. Alors, donc, cette histoire racontée par Rémy Pêche, une première statue en bronze de Jaurès placée aussi dans le square, en bordure de la rue Alsace-Lorraine, fut inaugurée le 24 mars 1929, 15 ans après l'assassinat de Jaurès, mais abattue sous le régime de Vichy. La tête fut sauvée par un récupérateur nommé Agapito Nadal, républicain d'origine catalane, et réinstallée sur un monument modeste. Elle a été ensuite dérobée. Retrouvée, elle disparut à nouveau. Enfin, le conseil général éleva ce monument comportant un buste dû au sculpteur André Abal, réplique en pierre du buste figurant dans le bureau des maires successifs, significatif démêlé des noces passionnelles du tribun et de la ville. Ah oui, en effet. Quelle aventure. Voilà. Alors, il y a quelque chose d'amusant, on va rentrer dans le vif du sujet. Chacun de vos chapitres est précédé d'une citation.
C'est ça. Oui, le préfacier, que je remercie d'ailleurs parce que sa préface est très, très sentie, très à la fois élogieuse, mais très émue.
Christian Saint-Paul.
Qui est mainteneur de l'Académie des Jeux Floraux. Il réalise d'ailleurs aussi depuis très très longtemps une émission qui s'appelle Les Poètes sur Radio Occitanie. J'ai perdu le fil là, pardon. Pourquoi je parle de lui?
Oui, parce qu'on parle des citations.
C'est ça. Il est convaincu que Toulouse est une ville très très littéraire, qu'il faudrait mieux le montrer, il faudrait réussir à mieux l'affirmer, notamment par l'Académie des Jeux Floraux. essayer d'en faire une capitale européenne de la poésie, pourquoi pas. Si on regarde bien, elle le fut.
Oui.
Elle le fut au XIIe siècle.
Avec les troubadours.
Avec les troubadours. Toute l'Europe chantait les troubadours en occitan. Quand on dit toute l'Europe, les châteaux, naturellement, oui. Les paysans étaient incultes.
Bien sûr.
Mais c'était une culture qui dominait un petit peu comme la culture, comme la chanson américaine ou anglaise domine actuellement.
Oui. Oui.
Voilà, il faut l'imaginer comme ça.
Oui, mais d'accord.
Et avec, naturellement, avec les chants des troubadours, était aussi véhiculée l'idéologie de l'amour courtois, qui n'est pas rien, qui est un nouvel humanisme.
Oui.
Le respect de la femme
oui.
dans l'amour,
oui.
ça c'est nouveau.
Oui,
on l'apprend à l'Europe
oui.
et ça naît en Occitanie.
Un peu de douceur dans ce monde de brut.
C'est ça, et même plus que ça, parce que c'est le culte de l'humain.
Oui.
Alors je m'excuse, nous sommes à Radio Présence, mais enfin, les
crois qu'à Radio Présence, on a le culte de l'humain.
Je n'en doute pas. Si vous voulez, un philosophe qui a beaucoup travaillé sur les troubadours, René Nelly, qui était prof ici aussi à la fac, disait « Les troubadours ont fait descendre Dieu sur terre ». En fait, c'est le culte de la dame.
C'est une belle image, oui, voilà. Une belle image que nous gardons. Alors, vous avez, il y a 33 petits quartiers que vous avez dit, je ne sais pas comment vous les avez découpés, mais je me suis dit que c'était difficile de faire un choix.
Oui, c'est un choix qui s'est imposé, si vous voulez, un peu à l'insu de mon plein gré, comme dirait l'autre. Et voilà, quand j'avais fini un quartier, je me disais, quel va être l'autre ? Alors, naturellement, ça suit un circuit.
Oui, hein ? Oui, oui. Et après, on termine. Enfin, on verra. Oui, c'est très intéressant. Oui, comme un peu comme un escargot.
C'est hein ? Ça. C'est,
on tourne et puis on se rapproche du centre.
C'est ça. On démarre derrière le Capitole,
oui.
Enfin, sur le fameux square, là, oui. Et on arrive devant, sur la
c'est
place
ça.
Du Capitole.
C'est ça. Voilà. Voilà. Alors, vous n'hésitez pas non plus dans ce guide. Je dis, c'est un guide qui est à la fois artistique, enfin, il y a beaucoup d'informations historiques, etc. Mais vous donnez des informations pratiques également. Métro, ligne de métro, bon, il n'y a pas trop le choix, hein, mais enfin quand même, les stations qui desservent certains lieux que vous indiquez, et même parfois l'adresse et le numéro de téléphone de certains lieux.
C'est
et
ça.
Même les horaires de la navette gratuite.
C'est ça. Oui, ben, c'était un petit peu, si vous voulez, le contrat avec l'éditrice, hein. Elle m'a dit, il faut faire ça. Donc, je l'ai fait. Et j'avoue que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je me permets d'y revenir, parfois, je croulais un peu sous la tâche. Enfin, crouler n'est pas le mot, mais j'étais un peu perdu.
Oui, oui parce qu'il faut faire des
avec
choix.
Tout ce qu'il fallait
oui.
gérer,
oui.
La quête aussi de la documentation.
Mmh, absolument.
Parce qu'ensuite, l'éditeur a fait son travail. C'est lui qui a traité. Mais c'est moi quand même qui devais lui soulever les pistes, n'est-ce pas ?
Évidemment.
Et donc, je n'ai pas vraiment l'habitude de travailler comme ça sur les documents.
Oui, parce que je rappelle à nos auditeurs que vous êtes romancier essentiellement. Hein.
Vous m'avez reçu d'ailleurs pour pas mal
fois.
De mes romans.
Oui, oui, absolument.
Je vous remercie.
Absolument. Alors, vous racontez l'histoire des lieux, l'histoire ancienne et l'histoire la plus récente. Et je disais que... Pour certains d'entre nous, ça évoque notre temps d'étudiants, les cafés, les caves, les cinémas, si nombreux à une certaine époque, dans les années 70, 60 et 70, ils étaient très nombreux. Et ce que remarquent les touristes, justement, c'est la jeunesse, la densité de jeunes. Alors, j'ai lu qu'il y avait autour de 130 000 étudiants à Toulouse, dont 15 000 étudiants étrangers. C'est une belle chose.
Oui, oui, c'est beaucoup, oui. C'est énorme.
Et puis des lieux mythiques. Alors évidemment, l'ABC, évidemment, la Cinémathèque, évidemment, la CAF Poésie. Et j'ai connu René Gouzène, qui était venu ici aussi à une époque. Oui, alors voilà, ce sont des lieux vraiment de culture. Tous les trois, cinématographique, évidemment, et puis la poésie. Rue des Lois.
Rue du Thor.
Rue du Thor,
à côté de la Cinémathèque.
Oui, à côté de la Cinémathèque, oui, exactement. Voilà. Alors... On découvre des belles façades et c'est là aussi, je me suis dit, dans le fond, les Toulousains ont tellement l'habitude de marcher dans les rues. Est-ce qu'ils lèvent le nez ? Est-ce qu'ils repèrent ? Peut-être pas certaines belles façades. Parce que évidemment, il y a les façades en briques, on aime bien les briques. Et quand elles sont mélangées avec des galets de la Garonne, c'est bien également. Mais il y a des façades art nouveau et Modern Style qui sont magnifiques.
Bien sûr. Je peux confirmer qu'on passe souvent sans voir. Hein,
oui.
Puisque j'étais ce matin à Radio Mon Pays, c'est l'un des deux personnes qui m'ont posé des questions, me disait, mais moi, je n'avais jamais vu la fameuse horloge à 24 chiffres, à 24
heures. Oui, 24,
heures,
oui.
Oui, oui, il y a des tas de choses qu'on ne voit pas. Les dames dénudées, les muses que j'évoquais tout à l'heure,
oui.
Là, mais quand j'en parle à mes amis, parfois, ils me disent, ah ben, j'ai jamais vu,
oui.
Alors qu'ils
on
passent
sait,
devant.
On ne sait pas voir.
C'est très étrange.
Oui, oui, oui. Voilà, alors ben, la poste centrale, c'est quand même, quand on la regarde, maintenant, à une époque, je vais vous dire, je ne l'aimais pas trop. Maintenant, j'ai un autre regard. Avec le recul du temps, on se dit, oui, dans le fond, c'est de l'art moderne. Il y a la poste centrale. L'immeuble Jossoli également. Intéressant, l'immeuble Jossoli. Je ne connaissais pas.
Très, très intéressant, oui. Alors, c'est... je ne veux pas me tromper. C'est celui de la rue d'Alsace.
Alors, l'immeuble Jossoli...
Où est-ce
celui? Il se trouve 42... oui, mais c'est l'immeuble de la Dépêche.
C'est l'immeuble de la Dépêche.
Et il est magnifique.
C'est ça. Ah oui. Et très, très étonnant, parce qu'il tranche tellement sur les autres façades haussmanniennes.
Oui.
C'est assez surprenant. Oui. Là, encore une fois, alors si vous voulez, j'ai cru déceler, ça c'est mon sentiment personnel, mais je pense qu'il est assez exact, j'ai cru déceler une sorte d'obsession du mythe de la femme savante, au bon sens du terme. Hein. Ce n'est pas au sens de Molière.
Oui, parce que c'est vrai que c'est une femme, là aussi.
De la dame cultivée et dont on cultive le culte aussi. Dont
oui.
On, voilà. On le retrouve très souvent. Là, là il y est. C'est une femme.
Ah oui,
hein,
oui, oui.
Comment dirais-je, qui est couronnée de la culture, le journalisme, l'agriculture, etc.
Oui, oui, oui.
Un petit peu tout ce qui concerne la grande culture. Et à différents endroits, mais à de nombreux endroits, je rappelle donc qu'il s'agit... Alors, il y a Clément Cisor... vient pas vraiment à l'idée, mais un petit peu partout.
Y compris dans les fontaines, oui.
Voilà,
oui.
Les fontaines, bien des lieux culturels, le mythe de la belle Paul, Clément Cisor, et tant d'autres. Mmh. Alors là, on peut faire un petit, comment dirais-je, un petit cas à part avec la fameuse Dubarry. Parce que c'était la parente, alors on ne sait jamais bien si c'était... La pseudo-épouse ou une cousine.
Oui, l'épouse de quelqu'un qui était sur la route de Saint-Gaudens, un petit village qui avait un château.
Voilà.
Je crois, oui.
Mais c'est le propriétaire du château qui est à l'heure actuelle le lycée Saint-Cernin, enfin du moins le bâtiment ancien 18e du lycée Saint-Cernin, qui était la propriété de Dubarry en un seul mot.
Oui.
Et donc sa parente Dubarry en un seul mot... quand elle est devenue la favorite, quand il a livré pour favorite à Louis XV, elle est devenue Dubarry en deux mots pour être un oubli.
Et voilà. Alors, Francis Pournon, on va faire une courte pause musicale. Alors, je voulais faire écouter à nos auditeurs une jeune chanteuse, Jeanne, qui chante Makeba, mais on ne l'entendra pas intégralement parce qu'on n'aura pas le temps.
I'm not going to be able to do that.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Oui, nous connaissons beaucoup de groupes musicaux à Toulouse, mais voilà, ouvrons nos oreilles à des jeunes qui commencent, qui débutent. Alors, Jeanne, paraît-il, est un espoir de la chanson française. Et nous reprenons notre entretien avec Francis Pornon, qui a écrit ce qui pourrait être un guide, le guide du promeneur curieux, passionnant, Toulouse, petit secret, grande histoire, aux éditions Sud-Ouest. Donc à la fois des textes sur l'histoire, sur les lieux évidemment, sur les personnes, illustrés de photos, de dessins. Et donc là, nous parlions de la densité des jeunes, oui, et des lieux qui sont évidemment fréquentés pas que par des jeunes, mais quand même l'ABC, la Cinémathèque, la CAF Poésie. Quand on y va, il y a beaucoup de jeunes.
Ah oui, surtout oui. Lorsqu'on y va pour un festival, par exemple.
Oui.
Dans la cour, c'est très festif. Il y a des petites baraques de frites ou autres. Il y a des orchestres. C'est assez étonnant. Si on compare à Bordeaux, par exemple, quoique Bordeaux est en train de changer, Bordeaux a une allure beaucoup plus compassée, sérieuse.
C'est amélioré, ça s'est amélioré.
Oui, c'est en train de changer.
Alors, vous avez évoqué également de grands hommes, Albert Lotman, Joseph Ducoin, Pierre d'Assesa, beaucoup plus ancien, et Nakache. Moi, je voudrais faire une petite parenthèse sur Nakache, parce qu'un film sort actuellement. Vous en avez entendu parler, peut-être ?
Je crois, oui, je crois.
Alors, je vais vous dire une chose, c'est une confidence tout à fait personnelle. Mon mari, qui était étudiant à l'ENSET, a eu comme professeur de sport M. Nakache, et il en a un souvenir extraordinaire. Il me dit que c'est un homme d'une bonté, d'une gentillesse, toujours le sourire. Et quand on connaît l'histoire de cet homme, il a été déporté avec sa femme et sa toute petite fille. Et je ne sais pas dans quel camp il était en Allemagne, quelqu'un, un Allemand, a compris qu'il était champion olympique de natation, donc l'a protégé. Mais quand il est revenu, il n'y avait plus ni sa femme, ni sa...
Ah oui. Ni la femme ni la petite fille ne sont revenus.
Et le maire de Toulouse, qui croyait qu'il était mort, avait donné son nom à la piscine municipale, qui s'appelle toujours Nakache, évidemment. Et moi, j'ai appris comme ça qu'il avait continué à enseigner. Et il a gardé un souvenir chez les étudiants, ceux qui étaient étudiants à l'époque, extraordinaire.
Alors, souvenir personnel pour souvenir personnel, mon premier beau-père, qui hélas n'est plus de ce monde, m'a raconté que le nom de Nakache a été donné à la piscine à son instigation personnelle, puisqu'il était conseiller municipal.
D'accord.
Il s'appelait Jean Vecnet. Je crois d'ailleurs que je l'ai noté dans le guide.
D'accord. Alors, voilà. Alors, donc, voilà, des grands noms, et il n'y a pas que. Évidemment, vous mentionnez l'importance des immigrés espagnols dans la ville. Effectivement, il y a eu beaucoup d'immigration, et on voit combien cette intégration s'est bien opérée, finalement. On le voit sans problème. Maintenant, on sait ce qui s'est passé, a pu se passer dans certains camps. Par exemple, vous mentionnez la place Wilson, qui est le rendez-vous. Alors, je ne sais pas encore, mais c'était le rendez-vous. Moi, je sais que quand j'y passais, c'était le rendez-vous des Espagnols, beaucoup.
C'est vrai, on y entendait beaucoup parler espagnol. Je crois que maintenant, on y entend bien d'autres langues.
Oui, maintenant,
peut-être l'ukrainien, entre autres.
Voilà. Écoutez, il faut savoir accueillir les immigrés.
Certes.
Alors, il y a plusieurs pages consacrées à la culture occitane. Bon, moi, je fais une découverte, grâce à vous, l'hôtel d'Occitania.
Oui.
Oui, je ne savais pas qu'il y avait un endroit consacré à la culture occitane. Et puis, là, dans ce quartier-là, vous évoquez l'affaire Calas, évidemment, bien connue. Alors, l'hôtel d'Assesa, la fondation Bamberg. Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi M. Bamberg, qui vivait en Amérique, pourquoi a-t-il donné sa collection prestigieuse à Toulouse ?
Écoutez, c'est une bonne question, je n'ai pas la réponse. Et malheureusement, je suis obligé d'embrayer sur une autre question. Pourquoi la fondation Bamberg est-elle partie ? Où et pourquoi elle n'est plus à l'hôtel d'Assesa ?
Vous êtes sûr ?
Oui. Oui, oui.
Alors, ça veut dire que toutes les peintures Renaissance...
Voilà, ne sont plus là, ont disparu.
Remarquez, c'était une fondation, c'était pas une donation.
Non, 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 c'était... Je crois qu'ils étaient en location, quelque chose comme ça. Alors, cela dit, reste beaucoup de choses à l'hôtel d'Acesa, c'est-à-dire à peu près tout ce que Toulouse compte d'académies savantes, y compris l'Académie des Jeux Floraux. L'Académie des Jeux Floraux, qui est la plus vieille académie du monde européen, on va dire, puisqu'elle est née... il y a 700, elle va commémorer son 700 ou 800e anniversaire. Je ne sais plus exactement, quand il y en a beaucoup, on finit par se tromper. Et, pardon, elle est née de troubadours, ou de dix troubadours, enfin, qui ont décidé d'instaurer des concours de poésie. Elle a primé en premier un Arnaud Vidal, Arnaud avec un T, et pas avec un D, parce qu'il y a un Arnaud Vidal beaucoup plus postérieur avec un D. Elle a primé Victor Hugo, Ronsard ou Dubellay, je ne sais plus exactement, je parle de tête. Et alors, il y a un épisode qui mérite d'être cité, c'est que nous ne sommes pas loin des allées Charles de Fitte ici. Charles de Fitte était un socialiste d'extrême gauche qui était membre du conseil municipal ainsi que Jaurès et qui est intervenu un jour en disant « Il faut arrêter de subventionner cette académie qui est faite de généraux, de grands bourgeois qui n'a rien de républicain. » Et Jaurès lui a répondu en disant « Ben, c'est la grande culture et le peuple a besoin de grande culture. Donc, effectivement, il faut aider cette académie. »
Ce qui prouve l'ouverture d'esprit de Jean
voilà.
Jaurès.
Ouais. Ceci pour illustrer le fait que maintenant, l'académie n'est pas composée que de personnes octogénaires ou nonagénaires. Il y a beaucoup de jeunes, grâce entre autres à Christian Saint-Paul. Beaucoup de jeunes sont intronisés, des jeunes poètes. Et je crois que ça, c'est plein d'avenir.
Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, on se promène dans la ville, on passe place du Salin, lieu d'exécution, comme la place de l'Estrapade. Oui, il y a eu une époque où on exécutait beaucoup. Hein.
Ouais, oui, à Toulouse comme ailleurs.
Oui, comme ailleurs. Bon, il y a l'histoire de Vanini. Il y a la stèle des Justes. Alors, ça, vous voyez, ça, je ne l'ai pas vu.
Eh oui, c'est... Oui. C'est au Jardin des Plantes, du côté, c'est près de l'entrée qui est du côté du monument souterrain à la Résistance, vous savez.
Oui, oui, tout à fait.
Alors, il y a une entrée de ce côté-là, au jardin. La stèle se trouve là.
D'accord. Oui. Alors, la stèle des Justes, alors évidemment, on devine que ce sont des personnes qui ont aidé.
C'est ça, elle énumère à peu près tous les gens du département ou de la région, je ne sais plus, du département, je crois. Tous les gens, donc, qui ont été classés justes. Et j'ai eu la surprise de découvrir, puisque nous découvrons tous des choses comme ça, qu'un commissaire, dont j'ai oublié le nom, mais il est bien écrit dans le guide, un commissaire de police qui était chargé d'arrêter les résistants, en réalité, il en a protégé un grand nombre.
C'est ce que vous racontez. Voilà. Alors, bon, on tourne encore, on arrive à la cathédrale Saint-Étienne, et vous dites qu'en effet, elle est particulière, elle paraît un peu de guingois. Hein.
Exactement.
Elle n'a pas d'unité, évidemment, on a tous un faible pour Saint-Cernin, hein, qui est un très bel ouvrage. Là, il y a le buste de Monseigneur Saliège. On parlait des Justes et on parlait des Juifs. Et Dieu sait que Monseigneur Saliège a fait l'honneur de notre Église.
Fameuse lettre pastorale, je crois.
Oui.
Une lettre qu'il proposait de lire en chair, dans laquelle, en gros, il dit les Juifs et les Juives sont des hommes et des femmes comme tout le monde. Il faut les traiter comme les autres.
Oui. Il y a eu un impact, d'ailleurs. Alors, on arrive au Jacobin, à l'église des Jacobins, et ce fameux palmier. Alors, Paul Claudel, subjugué, disait « C'est un pilier unique d'où s'échappe de tous côtés un torrent de nervures, une chevelure de direction, une ascension de palmes qui ne s'élève que pour retomber circulairement comme succombant aux fruits. » Alors, moi, j'ai appris une chose, mais vous devez le savoir, c'est que Salvador Dali et Jean Dieuzette se sont fâchés à cause de ce palmier.
Alors, vous me l'apprenez.
Voilà. Vous savez quoi ? C'est que Jean Dieuzette était ami avec Salvador Dali. Il l'amène à ce palmier et il lui montre la photo qu'il en a faite. Et il paraîtrait, je parle au conditionnel, que Dali a utilisé cette photo pour faire un tableau que j'ai vu, moi, du palmier d'où jaillit un cheval. Mmh. Il y a eu un procès, figurez-vous.
D'accord.
Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Bon, on n'en a jamais fini avec les petites histoires. Mmh. Bon, alors, on passe alors, sur la...
Pour la petite histoire, juste, le cloître attenant à cette grande nef,
oui,
il y a un cloître
magnifique.
Donc
oui.
Qui se visite. Qui est... Eh bien, figurez-vous que ce fut ma cour de récréation lorsque j'étais élève de 6e à ce lycée.
Quelle chance.
À l'époque, il n'y avait pas de collège, hein, ouais, on faisait ouais. Le petit lycée. Et il y avait une cour de récréation par année, mm-hmm. parce qu'il y avait plusieurs classes. Mais le cloître n'était pas encore tout restauré, ne restait que deux côtés d'arches, mm-hmm. de corps. On faisait même la gymnastique au milieu, voyez-vous.
Oui. Alors, on passe rive gauche, alors Saint-Cyprien. Et dans le fond, vous le dites, c'est presque une autre ville.
Saint-Cernin.
Non, Saint-Cyprien.
Saint-Cyprien, ah oui,
Saint-Cyprien.
Pardon. Alors Saint-Cyprien, c'était carrément une autre ville.
Oui, oui.
Puisque c'était séparé par la Garonne, à une époque où il n'y avait pas beaucoup de ponts, où il fallait payer des péages, etc.
L'octroi,
et
oui.
Puis c'était un bas quartier.
Hein. Ouais. Inondable.
Un bas quartier, inondable, malsain, dans lequel on avait cantonné les métiers, y compris la prostitution, les indésirables, comme les cagots.
Alors, les cagots, moi, j'ai appris que les cagots, c'était souvent des goitreux. Dans les Pyrénées, on appelle les cagots les personnes qui avaient des goitres très développées. Ils n'étaient pas soignés.
Oui. Oui, alors on les rangeait peut-être dans les cagots, mais sinon, si vous voulez, il y avait des cagots tout à fait normaux physiquement. Alors on se demandait s'ils n'avaient pas les pieds palmés, par exemple.
Comme la reine Pégloc.
Oui, en fait, non, c'était une catégorie d'exclus, de gens de paria, mais qui savaient souvent faire une chose, ils étaient charpentiers. Le métier de charpentier était extrêmement dangereux, surtout quand on construisait très haut.
Oui.
S'ils tombaient, ils étaient fichus, quoi. Oui. Et voilà, c'était un métier réservé aux cagots. Et ils n'avaient le droit, d'ailleurs, de n'exercer que celui-là, je crois.
D'accord. Alors, alors souvent, même dans les années 50-60, on trouvait que Saint-Cypre, il ne parlait pas très bien. Hein.
Alors, il y avait un accent différent. Vous avez tout à fait raison de soulever la question. Quand on est rive droite de la Garonne, on est en Languedoc. Mmh. Rive gauche de la Garonne, on est en Gascogne.
Ouais.
Et il est vrai que l'accent gascon et même une partie du vocabulaire gascon tranchait, était différent. Parce que l'Occitan n'ayant pas eu son académie occitane, eh bien, il y avait des variations très importantes.
Ouais.
Alors bon... Moi, je vous parle d'il y a très très longtemps, d'un temps que je n'ai pas connu. J'ai connu, comme vous probablement, dans ma jeunesse, un accent très fort, une sorte d'accent faubourien toulousain, on va dire,
ouais.
Qui correspondait un petit peu au mauvais garçon.
Oui, oui, voilà, c'était considéré, même voilà. Dans ces années-là, comme un quartier malfamé.
C'est ça.
Oui.
C'est
ça. Moi, j'ai appris qu'il y avait encore une association, elle existe encore, La Cloche, pour mm-hmm. aider les personnes en difficulté.
Oui,
voilà,
ouais.
Vous donnez même le numéro de téléphone. Ça se trouve sur la place. Hein, la place Saint-Cyprien. Alors, évidemment, vous racontez l'histoire de l'hôpital du coin, mais on n'a pas le temps de tout énumérer. Vous parlez du grand séminaire dans lequel se trouvent nos locaux. Là, Radio Présence se trouve là depuis 30 ans maintenant. Radio Présence a 40 ans d'âge. Bientôt, elle va fêter cela. Mais depuis 30 ans, nous sommes dans ces locaux. Vous parlez de l'Hôtel Dieu. Alors là aussi, c'est une histoire, cet Hôtel Dieu. C'est extraordinaire.
Oui, bien sûr. Alors, par quel bout y entrer ? À l'heure actuelle, il y a un musée de la médecine. Hein.
Oui.
C'est intéressant parce qu'il est très peu connu. On ne peut pas le visiter tous les jours. D'ailleurs, les jours et heures sont précisés dans le guide. Ce qui m'a le plus étonné au dehors, c'est le fameux tour où les dames, comment dirais-je, malheureuses, qui étaient enceintes alors qu'il ne le faudrait pas, pouvaient abandonner leur bébé de manière anonyme. En haut de l'escalier, donc,
Oui.
il y a un petit poupon à l'heure actuelle,
Oui,
d'ailleurs.
c'est un tourniquet.
C'est un tourniquet, c'est cela.
Et inversement, de l'autre côté de la Garonne, à l'église de la Daurade, les femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants allaient implorer la Vierge Noire. Voilà, vous voyez, vous rendez,
Comme
de
quoi
part et
le
d'autre.
monde est mal fait, hein.
Mais absolument, absolument. Alors, évidemment, on se retrouve après l'Hôtel-Dieu. Ah oui, alors je dois vous dire que les sœurs de Saint-Vincent de Paul, dans les années 50, 60 même, étaient encore à l'Hôtel-Dieu. Alors, rue du Thor, c'est une ancienne voie romaine.
Oui, c'est l'ancienne voie romaine qu'on retrouve rue des Filatiers aussi, je
Oui.
crois, qui traverse Toulouse de part en part. Ou plutôt, c'est Toulouse qui s'est construite autour de la voie romaine, on va dire, de chaque côté. Ça donne ce trajet un petit peu sinueux. Il n'y a rien d'aligné. C'est très beau.
Oui, très très beau.
Et j'ai d'ailleurs souhaité mettre en couverture du livre une vue
Oui.
de la rue du Thor. En même
Avec
temps, il y
le...
a un petit clin d'œil parce que habiter dans le fameux hôtel Mazzoli qui est un peu qui est très rose là, hein,
Orange presque, oui.
voilà une amie de jadis d'étudiant, elle habitait là, malheureusement elle est décédée et comme la photo me plaisait, eh bien je fais une sorte de petit hommage
Oui, elle est très jolie cette photo,
discret.
effectivement.
Oui,
Oui,
elle est
oui.
jolie.
Et alors, justement, vous parlez de la chapelle des Carmélites, qui est magnifique hein, dans le secteur. Et moi, je rappelle à nos auditeurs qu'il y a des concerts donnés qui s'appellent Musique en dialogue, qui, au printemps et à l'automne, qui sont donnés dans cette chapelle des Carmélites. C'est Musique en dialogue, c'est-à-dire alternance de musique et de lecture.
Tout à
Voilà.
fait. Et il y a aussi dans la même rue du Périgord, la fameuse bibliothèque du Périgord,
Ah oui, la bibliothèque maintenant,
voilà, qu'on a édifiée en son temps comme une sorte de temple de la culture. Hein,
qui est très belle.
voilà, c'est très très belle. Et d'ailleurs, mon éditrice est en train d'y travailler cet après-midi, puisqu'elle est venue hier pour une présentation, un lancement à la librairie Privas. Et comme elle reste un jour ou deux, je sais qu'elle est actuellement en train de travailler.
D'accord. Alors évidemment l'aéropostale, vous en parlez, et évidemment l'hôtel du Grand Balcon. Alors là aussi, il est mythique cet hôtel.
Ah, tout à fait. On peut, paraît-il, coucher, enfin c'est pas paraît-il,
Oui,
si on
oui,
a de
oui.
la chance, on peut coucher dans la chambre de
Oui,
Saint-Exupéry,
oui.
qui a été restaurée à l'identique. Ça doit être tout de même très très émouvant. Et puis l'histoire raconte que il était tenu du temps de l'aéropostale, il était tenu par deux vieilles filles qui étaient un petit peu moralisatrices, on va dire, et qui ne souhaitaient pas que ces aviateurs qui venaient ici en
Oui, dont
célibataire,
Mermoz en
bien sûr,
particulier.
dont Mermoz, mais pas
Oui.
seulement, je crois, qui amenaient des femmes pour
Mmh,
danser,
mmh.
elles ne voulaient
Elles
surtout
étaient
pas qu'elles montent
dans les
aux
étages.
chambres. Et on raconte que donc Mermoz et d'autres les chargeaient sur leur dos
Ah
de
oui.
manière à ce qu'on n'entende que les pas des hommes.
Et pas les talons hauts. D'accord. Voilà. Alors, évidemment, votre... on parle également, il y a l'église de la Daurade dont j'ai parlé à l'instant, et des cendres de Goudouli. Je ne savais pas que des cendres de Goudouli se trouvaient là. Il y a un petit passage que vous pourriez nous lire peut-être, non? Page 18, je crois.
Oui, alors là, ça nous ramène donc
Oui, un peu en arrière,
à la
oui.
statue de Goudouli, mais vous avez raison, puisqu'on vient de parler de ses cendres. La statue de Goudouli qui se trouve au milieu du square de la place Wilson.
Mais qui était Pierre Goudouli, voilà.
Alors, qui était Pierre Goudouli? Surprise de découvrir l'existence d'un important poète occitan, après la défense et illustration de la langue française des auteurs de la Pléiade. Peyre et Godoli, 1580-1649, n'obtint qu'une seule récompense mineure de la fameuse Académie toulousaine des Jeux Floraux, et ce pour une ode au roi Henri IV en français, alors qu'il écrivait en occitan. Il devint néanmoins concepteur de grands spectacles poétiques et populaires au moment des carnavals, où il composait, jouait de la musique et dansait. Il publia sous la protection des grands locaux, Montluc puis Montmorency, des pièces d'un éclectisme baroque, à double sens et pleine d'inventivité, dont le fameux Ramelemundi, le bouquet toulousain. Ses œuvres furent régulièrement rééditées, 20 éditions au XVIIe siècle. Et certains écrits de Cyrano de Bergerac et même de Molière qui passa par Toulouse s'en inspireraient. Victime du sort fait en France à la langue occitane, Goudouli, ce fleuron d'une culture flamboyante, le serait aussi de la perte de goût pour les baroques. Alors, oublié dans la capitale de l'Hexagone, il est pourtant célébré ici par de rares connaisseurs. Une décembre da fars, nous non torno jamais, allan de nostru mor non se trobo che mai, che de milo plazes nos corono labido. Traduction par Franck Bardou, poète membre de l'Académie des Jeux Floraux. Un décembre de soucis jamais ne nous refroidit, à l'année de notre humeur ne se trouve que mai, qui de mille plaisirs couronne notre vie.
Voilà un bel hommage à la culture occitane. Alors, évidemment, on a parlé, vous avez parlé des Beaux-Arts, ancien couvent des Bénédictins. On retourne donc au point de, quasiment au point de départ, la place du Capitole, le cœur de la ville, le poumon de la ville même. La façade que trouvait laide Stendhal. Il trouvait Toulouse une ville laide, il n'avait aucun goût cet homme.
Et il faut dire à sa décharge que c'était badigeonné d'un badigeon beige clair.
Oui, c'est pas
pour faire plus parisien,
plus
peut-être.
Moderne, oui.
Voilà, pour masquer la brique, ce qui était tout de même bien dommage.
Bien évidemment. Alors, évidemment, là, il y a le lieu d'exécution de Montmorency. Bon, un révolté comme tant d'autres. Il y a eu beaucoup de révoltes à Toulouse. Il y a les tableaux d'Henri Martin dans la salle des illustres, heureux lieu où on peut se marier. Il y a ce fameux théâtre avec le bel canto où les vieux amateurs, quand je dis les vieux, je pense que les jeunes, c'est pareil, vont tout à fait en haut au paradis et pour crier, siffler quand il y a une fausse note.
Oui,
guettant la fausse note, d'ailleurs.
Ce sont les places pas chères.
Oui, exactement.
Où on entendait très bien. On voyait peut-être pas très bien la scène,
on entendait bien.
Mais le son monte et on entendait très bien.
Voilà. Et vous évoquez ici les nombreux cafés et beaucoup disparus. Le Montcaf, le Tortoni, le Café de la Paix. Et puis, les fresques de Moretti, là aussi. Est-ce que les visiteurs pensent à lever la tête parce que c'est un condensé de l'histoire de Toulouse. Moretti a eu cette commande de la part de la mairie et il est au plafond des arcades, sous les arcades, il y a beaucoup de choses à voir.
Oui, un petit peu un résumé, effectivement, de toute l'histoire de Toulouse, y compris au hasard comme ça, je citerai le guerriero espagnol.
Mmh.
Mais bon, il y a un peu tout le reste. Il y a le rugby, il y a l'aviation.
Il y a la
croisade, cette fameuse croisade, hélas, qui eut hélas lieu à Toulouse et qui était chargée, soi-disant, d'éliminer les cathares, qui était un schisme. Mais en réalité, c'était pour s'emparer du pays. Il ne faut pas s'y tromper.
Voilà. Alors, un grand merci, Francis Pornon, pour cet ouvrage vraiment qui est très intéressant à lire et à garder. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de Toulouse, petits secrets et grandes histoires. J'aimerais qu'on termine en écoutant quand même la chanson de Claude Nougaro. On va peut-être pas en entier, peut-être qu'on n'aura pas le temps. En tout cas, Francis Pornon, un grand merci à vous.
Et merci à vous aussi.
Au fond de moi, suranime, l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes au monde. Paris, ô Toulouse, je reprends l'avenue vers l'école, mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu gagnes, tu gagnes. Ici même les mémés aiment la castagne. Au mon pays, au Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine con. Se traite. Il y a de l'orage dans l'air, et pourtant l'église Saint-Sernin illumine le soir d'une fleur de corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça. Malgré ton rouge et noir, c'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Je revois ton pavé au massif des Gascogne, ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne? Serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz? Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Les ténors enrhumés tremblaient sous leurs ventouses. J'entends encore l'écho de la voix de papa. C'était en ce temps-là mon seul chanteur de blues. Aujourd'hui tes buildings grimpent haut. À Blagnac, tes avions ronflent gros. Cette vie.